Parole d'auteur. Parole d'auteur, Christophe Hyde.
Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Violaine Béraud, dont chacun des romans est une promesse. Promesse d'un livre qui nous offre plus qu'un destin, plus qu'une histoire. Promesse d'un texte où le réel est toujours transcendé. Et cette promesse est tenue avec son dernier roman intitulé « Du côté des vivants », paru aux éditions Bûcher-Chastel. L'action se passe dans un monde standardisé et normatif, celui aseptisé de l'hôpital. Violaine Béraud nous invite à nous rendre à la chambre 308 de cet hôpital de proximité. Les malades, celles et ceux qui les soignent, celles et ceux qui les visitent, forment un balai où chacun rentre puis sort de la chambre. Une chambre d'hôpital où les rideaux s'ouvrent et se ferment, où le ciel bleu de mai est circonscrit derrière des fenêtres verrouillées. L'humanité est là, dans ses fragilités et ses souffrances, ses sollicitudes et ses solidarités. Bonjour Violaine Béraud.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans l'émission Parole d'auteur. Alors lors de votre dernière venue, nous avions parlé de vos romans, C'est plus beau là-bas. Et comme des bêtes, l'ambiance était au grand air. On montait jusqu'aux estives parfois, ça parlait de grottes et de fées. Et vous revenez avec ce livre où l'action se passe dans un hôpital périphérique et plus particulièrement cette chambre 308. Alors ma première question sera, qui est là dans cette chambre 308 ?
Il y a beaucoup de monde dans une chambre d'hôpital. Dans une chambre d'hôpital, on croit qu'il y a des malades et puis c'est tout. Mais en fait, certes, il y a les patients. Et dans cette chambre 308, il y a deux lits, donc il y a deux patients. Un vieil homme, Alphonse, et un homme plus jeune, Greg. Mais il y a aussi tous les gens qui entrent et qui sortent de la chambre. Et dans une chambre d'hôpital, ça n'arrête pas d'entrer et sortir tout le temps. Puis il y a aussi quelques présences qu'on peut voir ou pas.
Eh oui. Il y a des, vous l'écrivez, des blouses blanches, d'autres bleues, des femmes presque toujours, parfois un homme, beaucoup de mouvements, des entrées et sorties, certains passages très brefs. Ça lui donne un peu le tournis, mais il aime bien que ça défile et le prenne au dépourvu. L'avantage d'une chambre d'hôpital, surtout une chambre à deux lits, c'est qu'on y voit du monde, et il y a celui que cache le rideau. Alors, ils sont deux ?
Ils sont deux, donc il y a Greg, il y a Alphonse, ça commence sur Greg, l'histoire commence sur lui. On peut croire que ça va être le personnage principal du livre, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un personnage principal dans mon livre. Et puis, il y a un rideau, et au début du livre, le rideau est complètement refermé, enfin refermé, je ne sais pas comment on dit, tiré. Il ne voit que les pieds, que le bout du lit de celui d'à côté. Il ne sait rien, on ne sait rien de celui qu'on a à côté de nous dans une chambre d'hôpital. Sinon qu'il est du même sexe que nous, mais c'est la seule chose. Et donc, il voudrait voir qui est cet homme à côté et il attend que quelqu'un entre pour tirer le rideau et pour enfin découvrir son voisin, qui va être ce vieil Alphonse.
Alors, de ces deux présents, quand même, Alphonse, qui est un homme qui pourrait être le père de Greg, puisqu'ils ont une génération qui les sépare, il a, je dirais, un peu plus d'informations sur son voisin, parce que lui, il est là... Il a vu des choses, hein. Il a vu comment les gens se sont affairés autour de Greg, comment les médecins, les soignants se sont préoccupés de sa santé. Il a connu l'agitation, si je lis bien.
Oui, il a vu d'où Greg revenait, parce que Greg, il est arrivé dans ce petit hôpital au bord de mourir après une expérience assez dramatique en chimio dans un grand centre. Et il a été sauvé, il a été ramené à la vie, ramené du côté des vivants par le petit hôpital. Et donc, il revient à la vie dans cette chambre 308. Mais Alphonse, son voisin, a assisté à tout ça. Il est là depuis plusieurs jours avec Greg à côté. Il voit les médecins s'agiter autour de lui. Il voit toute l'équipe solidaire pour essayer de le ramener à la vie. Il a assisté à tout ça, oui.
Et Alphonse, c'est un vieil homme au cœur cassé, au sens propre comme au sens figuré.
Ouais.
Hein, il est, comme on dit maintenant, en perte d'autonomie. Enfin,
oui, il est en perte d'autonomie, puis il a le cœur cassé vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il a à la fois le cœur fatigué parce qu'il est d'un âge avancé et que son cœur fatigue. Puis il a eu le cœur brisé aussi par un moment de sa vie douloureux. Il a dû faire le deuil d'une enfant qui est morte jeune. Et donc son cœur a été bien brisé une première fois et il est bien fatigué maintenant.
Alors c'est vraiment deux personnes À un moment, vous dites très bien, vous dites, c'est, il y a les presque morts.
Oui, il y a les, il y a, il y a, il y a des, il y a de tout dans cette chambre. Il y a des presque morts, il y a des au bord de mourir, il y a des qui veulent mourir, il y a des qu'on veut tirer de la mort. Il y a peut-être aussi les morts qui rôdent. Il y a beaucoup de monde dans une chambre d'hôpital.
Alors, ces deux-là font connaissance et ça m'a fait penser à... récemment, je discutais avec un ami qui m'a dit, tu sais, lors de ma dernière hospitalisation, on m'a proposé d'être en chambre seule. Et pour être en chambre seule, ben, il fallait payer un supplément financier pour la prise en charge. Et alors, en lisant votre livre, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on voulait vraiment rendre un service, à mon avis, en le mettant dans une chambre seule? Parce que ce qui va se passer pendant dans votre livre, chez ces deux malades côte à côte, c'est quelque chose qui va transformer leur vie.
Oui, mais ils sont bien tombés. On ne tombe peut-être pas toujours très bien, hein. Ça ne marche pas forcément bien avec son voisin de chambre à l'hôpital, je pense. Mais il se trouve que Greg et Alphonse, qui ne sont pas du tout de la même génération, qui dans la vie normale ne se seraient sans doute jamais rencontrés, vont devenir importants l'un pour l'autre, vont s'apporter des choses. Oui, c'est le miracle des rencontres imprévues.
Et donc, ils vont avoir ces blouses blanches, ces blouses bleues. Il y a toute une hiérarchie des corps, des différents métiers. Et puis, il y a les nécessités de service. Il y a les soins, il y a la propreté, il y a le repas. Et des gens vont rentrer et sortir. Il y a l'aide-soignante ralentie qui n'est pas faite probablement pour ce travail qui vient juste d'être embauchée. Pardon. Il y a Jérôme, l'aide-soignant. Alors, pour lui, j'ai vraiment... je dirais une tendresse particulière, hein, grognon et râleur, revendicatif. Et puis, il y a la dame du ménage, que son amoureux appelait Madidou. Et puis, cette infirmière aussi, l'infirmière Marie. Hein, elle remise son sourire au vestiaire pour l'efficacité et la juste distance qu'elle veut mettre, surtout ne pas déraper avec les malades. Donc, tout ce petit. C'est l'équipe. C'est l'équipe du jour, en fait.
C'est l'équipe, c'est le personnel qui est là à ce moment-là, en service. Et moi, ça m'intéresse bien de voir ce qui se cache derrière l'uniforme. Parce que chacun rentre avec le costume, la blouse bleue ou blanche de sa profession, mais aussi avec l'assurance qu'il doit avoir ou pas par rapport à son métier. La femme de ménage, quand elle entre, il faut qu'elle soit discrète. Il faut qu'elle fasse son travail, elle n'a pas à parler au malade, elle n'a pas à avoir du lien au malade. La médecin, quand elle rentre, elle doit être sûre d'elle, elle doit rassurer, elle doit convaincre. Sauf que c'est des êtres humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se cache derrière la carapace, derrière l'apparence. Et tous, ils entrent dans cette chambre avec l'apparence qu'ils doivent avoir et avec la réalité de ce qu'ils sont à l'intérieur, leur joie, leur peine, leur douleur propre, personnelle. Donc, qu'ils ne veulent pas montrer, mais tout transparaît, tout perce un petit peu. Et parfois les malades peuvent être très vigilants et sentir des choses que les autres pensent ne pas montrer.
Il y a la personne et la fonction, c'est ça. Parce qu'il y a cette expression, l'habit ne fait pas le moine, ou à contrario, mais c'est ça. Et vous avez une phrase très juste, vous écrivez, « On ne devine rien des gens, ni de leur malheur, on regarde quelqu'un. » On invente sa vie, on se trompe. Chacun montre ce qu'il veut.
Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'on fait tout ça dans nos vies. On essaie de montrer de nous ce qu'on a envie de montrer. Mais en réalité, on est incapable de savoir comment les gens nous perçoivent. Et chaque personne nous perçoit d'une façon différente. Et moi, ça m'intéresse d'étudier la perception de gens différents sur d'autres personnes. Et tout le monde ne voit pas la même chose. Quand le vieil Alphonse regarde la dame qui fait le ménage, il admire cette dame parce que Alphonse, il a été éleveur, il a eu des vaches dans sa vie. Et c'était important l'état de santé de ces vaches. Et en particulier, qu'elles soient ni trop maigres, ni trop grasses. Il y avait un juste milieu qu'il essayait d'avoir avec ses bêtes pour qu'elles soient le plus en état possible. C'était important pour lui. Et cette dame du ménage, il est impressionné parce qu'elle est exactement dans cet état-là qu'il recherchait des bêtes. Mais ce n'est pas du tout péjoratif de sa part de la regarder de cette façon-là. Il est ébloui par cette femme qui est dans le juste état dont il rêvait pour ses bêtes. Donc chacun regarde depuis lui et chacun est regardé sans se douter de la façon dont on le regarde.
C'est ça. Alors, Ce livre, c'est aussi, donc c'est le livre de l'hôpital, le livre d'un système de soins quand même. Alors, on n'est pas dans un roman photo de la clinique de la Forêt-Noire, hein, ni dans un essai sociologique ou un brûlot politique. On est chez Violaine Béraud, c'est-à-dire, c'est une approche de biais,
oui.
Hein, par des voix, des destins, des liens. Est-ce que vous diriez que malgré tout, votre livre a une part un peu politique? Parce qu'à travers cette journée passée à l'hôpital, avec cette équipe, on sent quand même les contraintes d'effectifs. Je suis là, oui, c'est pas à moi de le faire, mais je vais le faire.
Ouais.
On parle, et puis il y a une menace quand même, la fermeture,
Ouais.
l'administration.
Oui, c'était pas un choix de départ d'aller parler de ça. Moi, mon choix de départ, c'était de faire un livre qui parlerait de la mort et de notre relation à la mort. Et finalement, voilà, je suis partie sur cette histoire-là, mais je sais jamais au départ vers quelle histoire je vais partir. Donc, je savais pas que je parlerais de l'hôpital et des problèmes que traverse l'hôpital, mais c'est venu dans mon stylo, sous mon stylo. Et moi, je suis une rurale, hein, je vis en Ariège, dans la montagne, et des petits hôpitaux, il y en a en ruralité, et des petits hôpitaux dont les services ferment, les maternités ferment, les urgences commencent à fermer. Il faut faire énormément de routes pour aller à la première maternité ou aux urgences les plus proches. Nous, si ça ferme à Saint-Girons, il faut aller à Foix, et depuis chez moi, par exemple, c'est 1h30 de route, les premières urgences. Et quand on va à l'hôpital visiter un malade, on se rend compte que tout est dégradé, qu'on a presque envie de leur offrir un pot de peinture pour repeindre un peu les couloirs et les chambres.
Oui, parce qu'il y a des couleurs dans votre...
Oui, il y a des couleurs.
Voilà.
Oui,
Et le jaune,
il y a
ce
des couleurs
jaune qu'on a tous
importantes.
rencontré dans les bâtiments administratifs vieillissants, là, ça a une importance.
Oui, parce que tout peut être important selon les gens. Et voilà, il y a une jeune femme malade pour qui le jaune est très important, par exemple.
Oui. Alors, dans un service, à l'hôpital, il faut que ça roule, hein. C'est comme si le malade était censé être l'objet de toutes les énergies dispensées. Mais voilà que le malade devient un grain de sable qui va gripper ce système bien huilé. Parce que ce malade, c'est Greg, et lui, il va dire non, il va refuser. Voilà. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un passage. Donc c'est le passage où justement, alors, il fait la connaissance du docteur Lombardo. Alors ils se sont rencontrés, mais pas vraiment, parce que lui, il était à moitié mort et qu'elle vituperait en espagnol pour essayer de le sortir de
Oui,
là où
parce que
il était.
Lombardo est une toubib argentine.
C'est ça. Et donc, il va enfin la rencontrer. Elle ne pense qu'à son traitement. Hein. Elle veut lui sauver la vie. Et donc, je vous laisse lire.
Et c'est lui qui commence à parler, Greg. Avec moi, ils ont fait n'importe quoi, et vous le savez. Elle a horreur de se retrouver dans pareille situation, de n'avoir pas anticipé ce genre de remarques qui la désarçonnent. Elle ne supporte pas que la qualité des soins soit remise en cause, ni d'être prise à partie contre ses collègues. À la fac, son maître lui avait conseillé de se méfier. Il disait: les patients sont des éponges. Ils captent toutes les émotions des médecins. Ils perçoivent la moindre de leurs hésitations. Il concluait: il faut, dans ce métier, en toute occasion, rester calme, neutre et distant. Elle s'applique à respecter ce précepte, toujours, même lorsque les collègues ont merdé. Donner l'impression que tout est parfaitement maîtrisé. Partir du principe que si l'on ne connaît pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'adresser aux malades avec gravité et assurance. Leur répéter que tout va très bien se passer. Faire des courbettes devant les grands professeurs de la grande profession et croiser les doigts pour que leurs conneries ne se reproduisent plus. Elle doit parler, reprendre la maîtrise du jeu, étouffer ce début de rébellion. Elle dit: tout va très bien se passer maintenant. Faites-moi confiance. Tout va très bien aller. C'est creux et insipide, mais c'est la seule chose qu'elle est autorisée à énoncer. Parce que si elle criait au scandale, qui l'entendrait? Qui est-elle pour oser protester? Qui est-elle sinon une petite médecin argentine, même pas un vrai docteur formé ici? Qui est-elle, sinon celle que l'on a certes été bien content de trouver pour boucher les trous béants des plannings, mais qui reste pour toujours la petite docteur étrangère d'un minuscule hôpital dont tout le monde se fout? Qu'est-ce qu'elle peut faire, à part jurer dans sa langue quand un patient manque lui crever dans les bras à cause des expérimentations ratées de ses collègues? Et c'est l'avantage de n'être qu'une petite toubibe d'Argentine. Personne n'est censé comprendre ses injures. Personne ne lui en veut pour sa vulgarité. Elle est d'un autre peuple, d'une autre culture. Et elle sait ce qu'ils pensent tous. La vulgarité, ça les connaît, eux, ceux d'ailleurs. En français, dans la langue officielle, celle qu'elle utilise pour rentrer sagement dans le rang, elle répète « Faites-moi confiance ». Ça le fait sourire, lui. Il rétorque « J'ai confiance en vous, mais le grand centre et la chimio, non, plus jamais ».
Voilà, ce grain de sable qui fait que ça suffit, en fait. Greg, il se réveille en se disant...
Ça va, j'ai bien donné, voilà. J'arrête.
Mais en même temps, le docteur Lombardo, lui, elle aimerait qu'il fasse un choix, comme on dit en médecine, un choix libre et éclairé. Mais après ces 3 jours où il était au quatrième dessous, est-il capable de faire ce choix libre et éclairé? Alors, elle y va. Et après, il y a les chiffres, hein. Vous avez 80% de chances de survivre, et puis s'il y a 20%, malgré la chimio et les radiothérapies, vous serez opéré, etc. Tout de suite, on passe un peu à la science, c'est-à-dire, voilà, il y a cette phrase qui est dite souvent, « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Donc, on revient aux statistiques pour essayer de fléchir, de le fléchir,
ouais.
Mais malgré tout, il tient, Greg.
En tout cas, il tient au début du livre. Et il tient devant la toubib argentine qui l'a sauvé, parce que c'est vraiment au tout début de cette journée où il a pris la décision de ne plus se faire soigner. Mais il pense au départ qu'il va devoir juste se battre contre elle. Mais quand on prend la décision d'arrêter les soins, il faut non seulement le faire accepter à une équipe soignante, mais il faut aussi le faire accepter à son entourage. Et puis dans quel état il est? Est-ce qu'il est... Alors moi, je suis pas du tout médecin, mais sous quel médicament est-il là? Est-ce qu'il est pas un peu euphorique parce qu'il revient à la vie? C'est un peu aussi ce que vont lui renvoyer ses amis. Ils t'ont mis quoi dans la perf ce matin?
C'est comme il est comme dans un oasis. Là, il retrouve son corps, il a moins de douleurs,
ouais.
Etc.
Ouais.
Alors, avant de parler des amis, oui. Parce que c'est important dans ce livre, je vais vous proposer une pause. C'est une chanson de Jacques Brel. Alors, j'avais pensé initialement à la chanson du dernier repas, mais c'était trop lourd, trop appuyé pour la finesse de votre livre. Et j'ai préféré Les Marquises, où Brel voudra être enterré.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit des soumises, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Parole d'auteur.
Nous sommes de retour après avoir écouté Les Marquises de Jacques Brel. C'était sans doute ce qu'il imaginait du paradis, de l'éternité, s'il y croyait. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec Violaine Béraud pour son livre « Du côté des vivants » paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors nous avons évoqué en première partie d'émission ces deux malades de la chambre 308, Greg et Alphonse. Et ça c'est dans l'hôpital. Il faut dire que hors de l'hôpital, les solidarités s'activent chez ceux qui aiment Greg. C'est Greg qui a refusé tous les soins et qui s'est dit « je ne vivrai plus que 6 mois de fête et je mourrai sans traitement ». Et donc ses amis, ses amours s'activent parce que il faut essayer de lui faire garder raison, essayer d'adhérer à ses soins. Alors qu'est-ce qui circule entre la chambre 308 de cet hôpital et le dehors, le hors des murs? Alors, il y a des pommes, du saucisson, mais il y a bien d'autres choses.
Oui, il y a bien d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est comment on prend soin les uns des autres et qui prend soin de qui. Normalement, quand on entre dans une chambre d'hôpital, que l'on soit personnel hospitalier ou que l'on soit des visiteurs, on vient pour prendre soin des malades. Mais est-ce que les malades aussi ne prennent pas soin de leurs visiteurs et du personnel? Est-ce qu'entre malades, on ne peut pas prendre soin l'un de l'autre? C'est quoi prendre soin? Est-ce que prendre soin, c'est aller contre la vie du malade? Ou est-ce que c'est respecter sa demande? C'est vraiment... Je n'ai pas de réponse. Hein. Et le livre, je pense, ne donne aucune réponse, mais ça m'interroge beaucoup. Et ça m'intéressait de faire rentrer dans cette chambre... beaucoup de personnes différentes qui sont dans le personnel hospitalier et aussi des visiteurs qui sont des gens qui se croiseraient pas non plus dans la vie normale, c'est-à-dire des amis qui se connaissent pas tous entre eux, la fille d'Alphonse qui vient visiter tous les jours son père, qui lui amène en douce à manger pour qu'il mange autre chose que les repas de l'hôpital.
Sous cellophane.
Et parce qu'elle a peur qu'il ne mange pas, et donc il lui amène ses pommes qu'il a ramassées lui-même, et du fromage. Et je veux dire juste le lien entre les gens. En fait, c'est un livre sur le lien, sur comment on prend soin et comment on fait lien les uns avec les autres.
Je trouve qu'il y a deux scènes enfin, parmi les auditeurs et les auditrices, on a tous vécu quand on va visiter un proche à l'hôpital qui est gravement malade, c'est le moment où on va rentrer dans la chambre, se faire un sourire, se créer une contenance en se disant « Mon Dieu, comment je vais le trouver ? Comment je vais la trouver ?» Ouais. Ah, c'est Inès. Ouais. Et puis, il y a cette scène que je trouve criante de justesse et de vérité, là où les femmes de la vie de Greg lui ont rendu visite. Et puis, tout ce qui s'est dit entre les quatre murs de la chambre pendant la visite, elles le ramènent dans la voiture. Elles sont toutes dans la voiture. Et puis, elles en font autre chose. Hein. Elles donnent d'autres perspectives. Ouais. Et ça, on l'a tous vécu.
Et puis ça m'intéresse beaucoup en écriture, la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et là, par exemple, ces trois femmes, elles vont toutes les trois, elles covoiturent pour aller toutes les trois rendre visite à ce Greg avec lequel elles ont eu on ne sait quelle relation par le passé. Enfin, on ne sait pas exactement quelle est leur relation, mais elles ont chacune une relation particulière à lui. Et elles se retrouvent à toutes les trois devant lui qui revient d'avoir failli mourir. Et du coup, elles sont un peu gênées à la fois parce que c'est pas rien d'aller visiter quelqu'un qu'on aime à l'hôpital et de le retrouver vivant alors qu'on a cru qu'il allait mourir. Et puis, c'est pas rien d'être à côté d'autres. Il y a une pudeur. Et puis, il y a Alphonse aussi de l'autre côté du rideau. Elles connaissent pas Alphonse, qui peut tout entendre. Ça fait une présence dans une intimité. Et donc, dès qu'elles se retrouvent toutes les trois dans la voiture, il y a tout qui sort. Elles laissent tout sortir. Et là, ça monte parce qu'elles... Tout monte entre les trois et elles décident qu'elles vont le sauver. Elles vont le sauver. Elles sont là pour ça. Elles se doivent de le sauver. Et ça m'intéresse de voir ce qu'on fait, de ce qu'on n'a pas dit, qu'on a cru entendre, qu'on imagine entendre. Moi, je travaille beaucoup sur le non-dit. Mmh. J'aime bien ça. Ouais. Nous sommes faits de non-dits. Toujours étonnant, hein, la différence entre les mots prononcés et tout ce qui traverse notre cerveau au moment où on dit quelque chose.
Écoutez, vous me retirez la question, c'est-à-dire, je vous la lis parce que je l'avais écrite. Est-ce que la force, la beauté de ce livre n'est pas dans cette tension entre la pensée et ce qui est dit ou énoncé ? Cette tension où se loge l'indicible qui est pourtant si porteur de sens. C'est exactement ça. Hein,
c'est exactement ça. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, il y a des auteurs qui travaillent ça merveilleusement. Laurent Mauvignier, par exemple, ouais. Il a toujours travaillé sur ça. Il y a très, très peu de dialogue dans ses livres. Et quand sort une phrase, par exemple, dans Histoire de la nuit, son avant-dernier livre, il y a très peu de choses dites, mais les choses dites... sont ridicules, n'ont l'air de rien. Ça va être « tu peux me passer le sel ». Mais « tu peux me passer le sel », ça ne dit rien de tout ce qui passe dans la tête et qui est énorme. Ça n'arrête pas dans nos têtes de s'agiter. Et comment dit-on les choses ?
Mais cette émotion qui naît, alors moi je vous fais un aveu. Enfin, parfois, les larmes me sont montées aux yeux quand j'ai lu votre livre. Mais justement, on se trouve pas bête, mais... parce que les larmes, c'est jamais bête, mais on se dit, mais comment elle fait ? Parce que je l'ai relu deux fois, ce livre, pour préparer l'émission. Et j'ai dit, mais c'est ça, c'est entre les mots, entre le sens, oui. La liaison des sens.
Mais c'est vraiment la base de mon travail, hein, c'est comment elle fait, je travaille.
Et est-ce que parfois, justement, vous vous dites, non, c'est trop.
Oui.
Je ne veux pas prendre en otage, parce que... Est-ce que parfois on ne peut pas se dire, ben, je vais prendre en otage le lecteur, le lectrice ?
Oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, je suis sur une crête et je ne dois pas tomber ni d'un côté ni de l'autre de la crête. C'est hyper délicat. Je peux tomber dans un côté bisounours ou je peux prendre en otage le lecteur. C'est très délicat d'en faire peu, d'arriver à provoquer une émotion. Moi, tous mes textes travaillent sur l'émotion que je vais procurer au lecteur. Je veux que le lecteur soit dans cette chambre 308. Je veux qu'il soit avec Greg, avec Alphonse, avec tous les gens qui rentrent. Je veux qu'il puisse s'identifier à celui qu'il veut parmi les personnages. Je pense qu'il y a... C'est presque comme s'il n'y avait pas de personnage principal. Et d'ailleurs, les lecteurs que je rencontre me parlent tous d'un personnage en particulier et c'est jamais le même. Mmh. Ça dépend vraiment des gens. Et l'important pour moi, c'est d'aller toucher un truc sensible chez le lecteur. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne connais pas mon lecteur. Mais pour ça, de chercher l'humanité chez tous les personnages. Tout à l'heure, vous parliez de Jérôme. Jérôme, c'est un aide-soignant. Il est plutôt un peu brutal dans sa façon de remuer les malades. Il vient pour faire les toilettes. Et au départ, quand j'avais écrit le passage sur Jérôme, il n'était que négatif, Jérôme. Et je me suis dit, ça ne va pas. S'il est négatif, il y a une raison. Pourquoi il est brut, Jérôme ? Et donc, je cherche. et je trouve pourquoi Jérôme est brut.
C'est trouvé. Alors, je voudrais pas que les auditeurs et les auditrices pensent que on est dans le tragique dans ce livre. Au contraire.
Non.
Je veux dire, il y a. Alors moi, on se croirait parfois dans un film de Claude Sautet. Là, j'avais pensé à Vincent, François, Paul et les autres. Alors, on aurait pu appeler ça Inès, Paul, Alain et les autres. Parce que, excusez-moi, mais dans un hôpital, on ne fait pas de bruit d'animaux. Il y a cette.
Mais tout est possible dans un petit hôpital délabré.
Ah oui.
Oui, il y a une scène avec des bruits d'animaux, en effet.
Enfin, c'est aussi le livre de l'amitié.
Oui, tout à fait. C'est mon premier livre sur... enfin, il y avait Tombé des nues aussi, mais c'est, on va dire, allez, mon deuxième livre sur l'amitié. Et c'était important pour moi, mais je l'ai découvert à la fin, en lisant le... Enfin, en prenant du recul par rapport à mon livre, je me suis dit, tiens, j'ai écrit un livre sur l'amitié. Et ce que je voulais, pour revenir au début de votre remarque... C'était ne pas faire un livre triste alors que mon sujet de départ était la mort. Je voulais, moi j'ai tendance à écrire des choses plutôt graves, mes livres sont en règle générale plutôt graves. Et je voulais que celui-là, justement, à cause de son sujet, soit mon livre le plus léger, si je peux le dire comme ça. Non pas léger au sens c'est rigolo, mais qu'on se sente bien avec ce livre. Je voulais que ce soit un livre qui fait du bien, mais sans tomber non plus dans le livre où tout est merveilleux et tous les gens sont gentils. Donc c'est là que la crête, que je suis sur une crête, que c'est difficile à tenir.
Oui, parce qu'il y a aussi l'idée du respect du règlement. C'est-à-dire, on a l'impression que la vie, c'est un peu comme une herbe sur le bitume, là. La vie, elle essaie de passer à travers ses règlements, accepter ou pas la pomme qu'un malade vous offre, accepter que le patient, ben, il sorte avec son pote pour aller fumer une cigarette
Sur
la terrasse. Tout ça, c'est un peu, voilà, des entorses au règlement. Et dans ces entorses au règlement, il y a de la vie, il y a de l'émotion.
Oui. Oui, mais c'est ça. Je voulais, ça devient, c'est au départ un livre sur la mort et ça devient un livre sur la vie. Et la vie, elle se ferait un chemin au milieu de l'hygiénisme à outrance, de la réglementation à outrance.
D'ailleurs, je me suis posé la question si le Covid était une des racines de ce livre ou pas du tout.
Mais tout peut être racine, mais c'est inconscient chez moi.
Ouais,
peut-être que je n'aurais pas écrit de cette façon-là s'il n'y avait pas eu le Covid avant. Par exemple... J'avais pas pensé du tout à ça. C'est votre question qui m'y fait penser. Moi, je constate comme tout le monde que depuis le Covid, on se touche beaucoup moins. Mmh. Et dans ce livre, les gens se touchent.
C'est vrai.
Et pour moi, c'est important. Ils parlent peu, mais ils se touchent. Il y a des gestes qui sont importants. Et peut-être c'est le Covid qui m'a vraiment sensibilisée à ça, au fait que moi, ça me manque de. Je touchais beaucoup plus les gens avant et. Et si je ne les touche pas, ce n'est pas parce que moi, j'ai peur de les toucher, mais c'est parce que j'ai peur que eux, ça les gêne que je les touche alors qu'il y a eu du Covid.
Bien. Nous allons marquer une seconde pause, Violaine Béraud, une pause musicale et écouter une chanson de Michel Berger, chantée par France Gall, qui s'appelle « Le paradis blanc ».
Blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Là où le monde a commencé, je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant,
seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je s'amuse et le soleil, le vent et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans tout seul avec le vent.
Parole d'auteur.
Nous sommes de retour avec Violaine Béraud, venue nous parler de son dernier livre, Du côté des vivants, paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors, une chanson de France Gall qui chante un paradis qu'elle a peut-être rejoint pour retrouver Michel Berger. Mais en écoutant cette chanson, une question me vient. Est-ce que vous avez une représentation du paradis ?
Alors moi, je ne suis pas croyante. Et j'ai pas une représentation du paradis, mais j'ai la sensation que nos morts restent toujours du côté des vivants, que les gens morts, ça sert à veiller sur les vivants, qui sont là, et c'est une représentation assez heureuse. Donc c'est pas, il y a pas de notion de paradis, mais il y a une notion de présence. Et de présence presque drôle. Moi, j'ai, par exemple, depuis que mon père est mort, je vois des signes de lui partout. Et mon père, qui n'était pas spécialement drôle, ces signes qu'il me fait sont très, très drôles. Et j'aime bien, moi, cette présence de mes morts autour de moi.
Ouais, présence invisible. Ça m'a fait penser à comme des bêtes dans votre roman.
Oui.
Y a cette idée que le réel ne s'arrête pas à nos simples perceptions, qu'il existe un invisible des présences. Et dans votre livre, Du côté des vivants, il y a aussi les animaux. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'on est quand même dans un hôpital. Et que, voilà, mais il y a un oiseau.
Ouais, il y a Milan qui passe dans le ciel.
Et puis, il y a un homme, en tout cas Alphonse, hein, qui était près des bêtes, qui lui a des prémonitions, ou en tout cas qui sait lire. Alors, il ne l'a pas appris à la faculté, hein, mais...
Oui,
la proximité de la mort.
Il sait lire la proximité de la mort, mais ça, je pense que les gens qui ont eu des bêtes, qui ont fait de l'élevage, s'ils ont été attentifs à leur troupeau, ils savent lire chez une bête la mort qui vient. Moi, j'ai souvent entendu dire que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal n'a pas conscience de la mort. Mais je trouve que c'est une connerie énorme.
Ah oui.
L'animal a totalement conscience de la mort. Si vous avez un chien, un vieux chien, votre chien, à un moment, il comprend qu'il va mourir. Et il s'éloigne, et il va se chercher un endroit pour aller mourir. Il a tout à fait conscience qu'il va mourir. Et un éleveur, il le voit chez ses bêtes, qu'à un moment, elle décide de lâcher, et elle laisse la mort venir. Et Alphonse, il le voit chez Greg.
Oui. Comme si cette proximité avec les bêtes, ça lui donnait accès à... Enfin, ça lui permettait de penser la mort, parce que dans la modernité... Cette mort, elle est toujours zappée,
oui.
Minorée.
Invisibilisé.
Oui. Il y a plus du tout de rituel de la mort. Avant, on portait le deuil.
Oui.
Avant, enfin, un enfant, fin du 19e ou début du 20e, il avait déjà vu, avant ses 10 ans, plusieurs personnes mourir. La mortalité infantile était énorme. C'était, la mort était présente. Et là, dans notre monde, mais voilà, il y a des milliardaires qui veulent tuer la mort. Donc,
Oui, il y a des milliardaires qui veulent tuer la mort. Et puis même nous, moi, je ne sais pas, quand mes grands-parents sont morts, on avait le corps à la maison et on faisait des veillées. Et maintenant, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je constate que maintenant, on meurt tous à l'hôpital. Et puis les corps ne sont plus à la maison. Et si on veut aller voir le corps, c'est dans le cercueil, avant de fermer le cercueil, mais dans une chambre mortuaire. C'est plus du tout chez soi. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais je constate que qu'on nous détache. Oui, c'est il faut pas trop montrer la mort. Et de la même façon, chez la mort pour la mort des bêtes, dans une boucherie, on voit plus les carcasses. Hein, et il faut déconnecter la viande du vivant. C'est la même chose. Pour moi, on invisibilise la mort, la fin de vie, il faut la repousser, comme si ce n'était pas naturel de mourir. Mmh. C'est naturel de mourir. Dans la nature, tout vit et tout meurt un jour.
Mmh. Alors dans votre livre, il y a la mort. Et puis il y a aussi, je dirais, je ne vais pas dire la folie, mais au milieu des trop vieux et des à moitié morts, il y a une jeune fille là, oui, qui souffre de troubles psychiques. Bon, l'hôpital, c'est un peu la cour des miracles. Hein. Bon, et donc, dans le texte, vous nous faites percevoir son fort intérieur, sa façon de décrypter le réel. Et je me suis dit, mais comment, encore une fois, hein, bon, moi je suis un de vos fans, mais comment en fait-elle pour, avec le texte, avec les mots, de faire entendre cette voix, de sa perception? Est-ce que ça a été difficile parce que
Mais c'est toujours hyper difficile. Moi, j'écris des tout petits textes qui font 120 ou 130 pages au bout. Et pour faire 130 pages, j'écris des milliers de pages que je mets à la poubelle. Et jusqu'à ce qu'un jour, je trouve cette jeune fille qui glisse sur ses chaussettes dans le couloir jaune, parce que c'est bien le jaune, ça glisse sous les chaussettes. Mon stylo écrit ça. C'est bien, le jaune, ça glisse sous les chaussettes. Je ne sais pas d'où je sors ça. Mais ça y est, là, je commence à la tenir, cette jeune femme un peu bizarre. Et puis, elle est complètement obsédée par les chiffres. Et le 8, c'est bien. Le 8, ça tourne, ça finit pas de tourner. Elle adore le 8. Et puis le 3, il y a des 3 sur toutes les portes. On doit être peut-être au 3e étage, il y a des 3 sur toutes les portes. Et le 3, elle se dit, le 3, il est comme moi, c'est un 8 à qui il manque des bouts. Et elle a bien conscience qu'à elle aussi, il manque des petits bouts. Et voilà, ça sort du stylo. Et à ce moment-là, je me dis, là, c'est juste. Là, je tiens mon personnage. Là, j'y crois moi-même. Il faut que moi, je croie à mon personnage quand je lis ce que j'ai écrit. Mais pour arriver à ça, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de pages où ça ne tenait pas.
En tout cas, c'est très réussi. Alors une question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, une question qui est plus anecdotique, mais votre livre commence par des remerciements sur l'accueil, le soutien que vous avez reçu dans 3 lieux, la Manche, la Suisse et Barcelone. Habituellement, c'est à la fin. Et je me suis dit, bah là, c'est au début. Et je me suis dit, hormis le caractère matériel et la reconnaissance, je me suis demandé si les lieux d'où on écrit influencent la jeunesse d'un livre,
Réponds à la première remarque. Moi, je fais exprès de toujours mettre ces remerciements. En fait, je remercie les lieux qui m'ont accueilli en résidence pour écrire. Et je les mets toujours au début du livre parce que je ne supporte pas, quand je finis un texte, moi, et quand je suis encore dans l'émotion de ma lecture d'un texte, d'arriver sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte. Donc, je vous le mets au début. Comme ça, vous n'êtes pas encore rentré dans le texte. Vous lisez ça et après, vous pouvez rentrer dans le texte. Donc, c'est volontaire de ma part de mettre les remerciements au début. Et après, j'ai oublié la suite de votre question.
Non, mais je vais en poser une autre finalement, parce qu'elle n'était pas terrible celle-là. Est-ce que vous ferez un spectacle ou une mise en scène avec ce livre du côté des vivants? Parce que c'est polyphonique, il y a beaucoup de personnages. Parce qu'il a les attributs du théâtre français. Il y a l'unité de temps, de lieu et d'action, c'est une journée.
Oui, mais moi, je suis déjà beaucoup adaptée en théâtre. Hein, comme des bêtes, tombées des nues, par exemple, sont toujours très adaptées en théâtre. Mais c'est plus facile avec ces deux textes-là parce qu'ils sont écrits à la première personne et c'est de la voix orale. Alors que du côté des vivants, même s'il a l'air d'être un texte polyphonique, est écrit à la 3e personne. D'accord. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est plus de travail, c'est faisable, hein, mais c'est plus de travail d'adaptation. Donc, je ne sais pas, on va voir ce qu'il advient de ce texte. Ce n'est pas forcément moi qui les porte sur scène, c'est des troupes de théâtre professionnel qui s'en emparent. Et moi, éventuellement, je travaille avec eux à l'adaptation du texte.
D'accord. Vous avez parlé donc des lecteurs qui vous renvoient ce qu'ils pensent du texte. Vous en rencontrerez des lecteurs le 29 novembre à 17h à Montauban, dans le cadre du festival Lettres d'automne. Ça, c'est pour votre actualité. Il y a une autre actualité éditoriale, c'est que votre livre « Tomber des nues » est sorti cette année au Livre de Poche.
Oui.
Et avant qu'on se sépare, j'aurais une dernière question. Alors, c'est celle-là. Dans un monde souvent mortifère et anxieux de l'avenir, quel est votre conseil pour rester du côté des vivants? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux lecteurs écrits? Sinon, de lire vos livres, mais ça, j'espère les avoir convaincus.
Non, mais je donnerai le conseil que donne Alphonse à Greg. Alphonse, il dit une seule phrase à Greg. Il lui dit... fais jusqu'au bout de ta vie qu'elle soit belle. Il le dit mieux que ça, je ne sais plus dans quel ordre. Jusqu'au bout, voilà, il dit comme ça, jusqu'au bout, ta vie doit être belle. C'est la seule chose, on ne sait pas combien de temps on va vivre, on ne sait pas ce qu'il y a après, selon nos croyances, mais en tout cas, tant que tu as envie, fais-toi la vie la plus belle possible. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'appliquer pour moi et ce que je conseille aux jeunes. Par exemple, j'interviens beaucoup en lycée et je leur dis, on vous met une pression pas possible sur l'orientation et tout ça, mais le plaisir...
Parcoursup n'est pas
Parcoursup, une fin y a en pas, soi. Hein. Parcoursup n'est pas une fin en soi et cocher toutes les cases. Il n'y a pas la case plaisir, il n'y a pas la case bonheur, il n'y a pas la case se faire la vie belle. Et se faire la vie belle... Ouais, c'est la phrase d'Alphonse. Pour moi, c'est mon mantra.
Très bien. Écoutez, merci, chère Violaine Béraud, d'être venue nous parler du côté des vivants, qui est paru chez Buchet-Chastel. C'est un roman juste et sensible, où des humains sont côte à côte, dans une relation d'attention, de soins, de liens, d'amour. La maladie et la mort font partie de notre condition d'être humain, et elles nous donnent parfois la chance d'être ensemble, pour que même les derniers jours et les dernières heures soient encore la vie. Merci encore.
Merci à vous.
Je remercie pour la technique qui était aujourd'hui assurée par Yannick Calupini. Je le remercie beaucoup. Il a rendu possible cette émission. Cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Présence et en podcast. À très bientôt pour une nouvelle rencontre de Paroles d'auteurs.